Allez-y.
Non, une seconde, je compte. Alors, 3, 4.
On ne parle pas la bouche pleine. On ne parle pas la bouche pleine.
Une émission d'Alain Krugère.
Sortez.
Bonjour. Bonjour, ben nous sommes à table avec Nathalie Vienne-Guérin et j'allais dire avec Sir John.
Ah oui.
Hein, parce qu'il va nous accompagner.
J'en ai la carrure et la stature.
Ah non, c'est pas vous Sir John, Sir John, c'est Falstaff que vous allez défendre, hein. Nous allons consacrer une émission à Sir John avec cette idée que peut-être que Falstaff, c'est l'art de parler la bouche pleine.
Ah oui, pour le personnage de Falstaff, manger et parler sont deux péchés de la langue, on va dire, dont il se régale et qui vont ensemble.
Et alors nous sommes très heureux de vous accueillir, Nathalie Vienne-Guérin, parce que vous êtes professeure en études élisabéthaines à l'université Paul-Valéry de Montpellier. Vous êtes présidente de la SFS.
C'est la Société Française Shakespeare.
Shakespeare et pas shakespearienne. Hein. Mm-hmm. Et le 23 avril, toute l'université Paul-Valéry de Montpellier 3 organise les 24 heures Shakespeare.
Voilà, les 24 heures Shakespeare. Donc, on travaille avec nos collègues d'art du spectacle pour et les étudiants et d'autres disciplines aussi, d'art plastique, de musique, pour jouer un condensé des 38 pièces de Shakespeare. Voilà, donc sur 24 heures.
Alors là, nous allons nous intéresser, bien entendu, à la langue, mais avec tous les sens de la langue et tous les sens tout court d'ailleurs.
Oui, alors je pense que ce qu'il faut souligner d'abord, c'est le parallélisme qu'il y a entre, parce que Michel Jeanneret a appelé, il y a déjà un petit peu longtemps, en 1987, les mets et les mots. Et c'est-à-dire les deux fonctions vitales de la langue, que sont le parler et le manger. La langue étant un organe assez dangereux, qu'il faut contrôler à la fois pour le manger et le parler, un carrefour donc de plusieurs fonctions. Et pour moi, le personnage de Falstaff, il représente cette langue éternellement en vie, mais aussi du coup dangereuse.
Votre rencontre avec Falstaff, votre amour pour cette pièce Henri IV, d'où vient-il ?
C'est la première pièce à laquelle je me suis intéressée sous l'angle de ma recherche sur le travail sur l'injure.
Alors, j'en profite pour signaler la publication de Shakespeare et des injures. Alors, c'est en anglais, hein, Shakespeare's Insult, a Pragmatic Dictionary. C'est chez Bloomsbury. Alors, quels sont les mots les plus goûteux,
les plus goûteux? Alors, je pense que le mieux, c'est de laisser la parole à Shakespeare, en fait, dans ces cas-là. Hein. Si je prends ça, je crois que c'est l'un des premiers chapelets, parce que les injures vont en chapelet, comme les saucisses. Alors, donc, c'est le prince qui s'adresse à Falstaff, qui est un gros menteur. Donc, il dit des mensonges plus gros que lui. Voilà.
Plus gros que son ventre.
Plus gros que son ventre. Voilà. Il y a un parallèle qui est fait entre ses mensonges et son corps, hein, littéralement dans la pièce. Et voilà ce que nous dit Hal à Falstaff. Alors, je vais le dire peut-être juste en français dans la traduction de Jean-Michel Desprats. Donc voilà ce qu'il dit. Hein. Ces mensonges ressemblent au père qui les a enfantés. Ils sont gros comme une montagne, évidents, palpables. Dis donc, boyaux à cervelle de glaise, bouffons à tête de bûche, fils de pute obscène, peint de suif graisseux. Et puis alors, il continue ensuite, en parlant à Falstaff, donc il lui dit ce couard cramoisi, ce tombeur de sommier, donc c'est bed presser, c'est-à-dire qu'il est tellement gros qu'il en fait craquer les lits, ce brise échine de cheval, tellement gros qu'il brise le dos des chevaux, cette énorme montagne de chair, hein, en anglais ça fait this sanguine coward, this bed presser, this horseback breaker, this huge hill of flesh, une colline, une montagne de chair. Voilà. Donc ça, ça fait partie des insultes qui sont adressées sur le mode ludique, parce qu'il y a la réponse qui va avec, c'est dans un genre de compétition très théâtrale, les injures qui sont adressées à Falstaff par le prince Hal.
Et Falstaff, il a lui aussi un langage très imagé, tant sur le plan de la nourriture que de la poésie.
Oui, alors, donc lui, il répond à Hal en termes de maigreur, c'est-à-dire il traite Hal de maigre.
Hein, oui, c'est une insulte. Oui.
Voilà, donc c'est très imagé aussi. Hein, donc alors je continue, puis après j'en finirai avec ces citations, mais c'est pour donner le ton, hein, de oui, la pièce là. la richesse aussi de cette langue. Hein. Sans Dieu, crève la faim. Hein. Donc voilà ce que lui répond Falstaff hein, à Hal. Crève la faim, peau d'anguille. J'adore ça, peau d'anguille. Langue de bœuf séché. Gidouille de taureau, morue sèche, stockfish. Hein. Tout ça pour dire que lui, lui, il fait partie du monde de Carême, du monde des Killjoys, des rabat-joie.
C'est Bruegel, hein, on est l'opposition entre le carnaval et le Carême.
Oui, hein. Tout à fait. Maintenant, c'est considéré comme, enfin, vraiment totalement évident que c'est dans ces pièces, hein, vous avez la mise en scène du combat de carnaval, donc le personnage de carnaval sur son tonneau de vin. Hein. Falstaff, il passe son temps à réclamer sack. Give me a cup of sack. Sack, c'est un vin d'Espagne. Donc, il passe son temps à réclamer du vin. Voilà, il faut boire du vin. Et donc, on voit dans la représentation de Bruegel, hein, donc le combat, la querelle des gros et des maigres, ou de carnaval et de carême, on voit donc carnaval assis sur son gros tonneau, hein, et puis à côté, le combattant, un personnage tout maigre, hein, qui rappelle, lui, forcément, davantage la mort, moins la vie que le gros Falstaff.
On voit ces tableaux de Bruegel, mais aussi on pense forcément à Rabelais, Gargantua et Pantagruel, il y a un cousinage même de cette fantaisie de langage.
Oui, c'est la langue de l'excès et la langue du renversement qui caractérise ce que Bakhtine a étudié dans son ouvrage sur Rabelais, hein, qui caractérise le monde du carnaval où les gros deviennent maigres, où les maigres deviennent gros. Donc, dans l'une des scènes de taverne dans la première partie d'Henri IV, on va voir Falstaff qui joue le rôle de Hal et vice-versa. Enfin, ils inversent les rôles et c'est la langue de l'excès, voilà, la langue de la truculence, la langue abondante qui est dans la pièce mise en contraste avec la langue d'un certain Francis, qui est un petit tavernier enfin, qui vient servir Hal et Falstaff et qui n'a comme seul mot de vocabulaire que le terme « anon » pour dire « j'arrive tout de suite, anon » avec un possible jeu sur le mot « anon », le petit âne en français. Enfin, voilà. Donc on a une mise en contraste comme ça de la richesse de la langue qu'on peut appeler rabelaisienne, même s'il n'y a pas une influence de Rabelais sur Shakespeare, mais on voit des parallèles. Donc contraste entre cette riche langue et puis ceux qui n'ont pas cet art linguistique. Qui est un véritable art, d'ailleurs, comme un art de la table.
Et cette langue, qui, comme vous le disiez, est comme la langue d'Ésope, la meilleure et la pire des choses.
Oui, la meilleure et la pire des choses. Alors, il y a deux histoires, moi, que je trouve toujours très intéressantes à raconter à propos de la langue. Il y a l'histoire de ce satyre, donc ça c'est une histoire d'Ésope, hein, qui accueille un voyageur transi dans sa demeure. Et comme ce voyageur est transi, le voyageur souffle dans ses mains pour se réchauffer les mains. Donc, premier usage du souffle pour produire de la chaleur. Et puis, il lui donne une soupe trop chaude et là, le voyageur souffle sur sa soupe pour la refroidir. Donc, deuxième usage. Et donc, le satyre le met à la porte. Il dit « Moi, je n'ai aucune confiance en quelqu'un qui fait ce double usage de la langue, qui souffle le chaud et le froid. » Et derrière le chaud et le froid, il y a le bon et le mauvais aussi. Et le bon et le mauvais, ça, on voit ça dans une autre histoire qui parcourt la Renaissance, qui vient de Plutarque. On a ça dans le traité sur le bavardage de Plutarque. Et puis après, c'est retraité par Erasme et puis par les auteurs élisabétains. Alors, c'est une histoire dont il y a plusieurs variantes, mais c'est l'histoire d'un sage Pythagos, qui doit apporter à son roi Amasis le meilleur et le pire organe d'un animal sacrifié. Il lui rapporte tout d'abord le meilleur organe, la langue, et puis dans un deuxième temps, il lui rapporte le pire organe, la langue également. Donc cette ambivalence de la langue, elle est absolument essentielle, à mon sens, quand on étudie le corpus shakespearien et puis quand on s'interroge sur l'usage que l'on fait, nous, de notre langue. Et pour le manger, c'est pareil. Hein, voilà. L'histoire du contrôle de la langue, le banquet, hein, à partir du moment où... est-ce qu'il est contrôlé ou est-ce qu'il ne l'est pas, ça peut aller du bon usage de la langue, donc de la bouche, au mauvais usage.
Alors, à propos de bon usage de la langue, il y a un grand shakespearien, qui est Orson Welles, oui, qui a fait ce très beau film, qui se prenait peut-être aussi pour Falstaff, hein, qu'on va écouter, parce qu'il a donné une interview et il parle de cette pièce et de la proximité qui existe entre le personnage de Falstaff et les chevaliers de la table ronde, la légende de Camelot.
Camelot, which is the great English legend, you know. And innocence is what Falstaff is. He is a kind of refugee from that world. And he has to live by his wits. He has to be funny. He has no... He doesn't... He hasn't a place to sleep if he doesn't get a laugh out of his patron. So it's a rough modern world that he's living in. But I think you have to see in his eyes. That's why I was also very glad to be doing it in black and white, because if it's in color, he must have blue eyes.
Nathalie Vienne-Guerin, alors est-ce que vous pouvez nous redire en français ce que dit Orson Welles et surtout le commenter?
Oui, il me semble que Orson Welles, là, il a une vision assez, assez émouvante du personnage de Falstaff. Et donc, pour lui, c'est un personnage de l'ancien monde, voilà, qui a du mal finalement à s'adapter au nouveau monde. Donc, c'est un vieux chevalier, quoi, qui n'est plus adapté.
Un vieux chevalier de la table ronde.
Oui, de la table ronde. Donc, ce que dit Orson Welles, c'est que, bon, bah, pour survivre dans ce monde, il fait appel à son esprit. Et donc il survit par l'esprit, par la force de l'esprit. Et dans la deuxième partie d'Henri IV, il nous fait toute une tirade, hein, Falstaff, sur le Xérès. Pour dire que le Xérès, ça apporte deux choses, de l'esprit, donc dans le sens de wit, hein, on peut faire des jeux d'esprit, donc de l'intelligence, et puis aussi de la bravoure. C'est une pub pour ce vin qui nourrit l'intelligence, nous dit Falstaff.
Et ce regard sur l'enfance, en tout cas sur l'innocence, vous le voyez
Oui, en fait, on le voit dans le mensonge, en fait, je crois. Au niveau des mensonges qu'il essaie de faire avaler, hein, et c'est très intéressant de voir là ce télescopage des mots et des mets, il essaie de faire avaler, de faire digérer des mots aux autres, et notamment des mensonges, comme un enfant le ferait, quoi, en se rattrapant toujours aux branches. Et moi, c'est là que je mettrai l'innocence de Falstaff. On lui pardonne tout, enfin, jusqu'à un certain point. Aussi.
Et est-ce qu'il y a un côté Sancho aussi?
Ah oui, c'est le braggart, hein, le fanfaron, celui qui ne vit que de mots. Hein.
Sir Toby
ah.
hein, est un buveur bon vivant, alors on n'est pas dans la même pièce.
Donc on est dans la Nuit des Rois avec Sir Toby.
On est dans la Nuit
Sir
des
Toby
Rois.
Sir Toby Belch, c'est un nom très intéressant qui veut dire roté, hein, Belch, hein, c'est son nom.
Est-ce que c'est un cousin de Sir John?
Oui, je dirais que c'est un cousin de Sir John. Sir Toby Belch, en fait, son opposé, c'est Malvolio dans Twelfth Night. Donc là encore, on a un peu le combat de Carnaval et de Carême à travers Sir Toby d'un côté et Sir Andrew Aguecheek, bon, qui vont ensemble, des joyeux compères de Beuvry. Et puis de l'autre côté, Malvolio, celui qui veut du mal, le puritain. Hein, et donc à un moment dans la pièce, Sir Toby lui dit « Mais ben, penses-tu que parce que tu es vertueuse, hein, parce que tu es, sous prétexte que tu serais vertueux, il n'y aurait plus dans ce monde ni de gâteau, ni de bière ?» Hein, le fait que tu sois là être vertueux, ben c'est pas pour autant que le monde que nous représentons ne doit plus exister.
Alors, c'est amusant parce que Nathalie Vienne-Guerin, quand on pense à Shakespeare, on n'imagine pas un homme qui ressemble à Falstaff. On imagine plutôt une figure plus sobre, plus grave, alors que visiblement, il est passionné par la boisson et par la nourriture.
Oui, passionné par le vivre en tout cas, par le vivre et par le vivre ensemble, je crois. Et Falstaff, ce qui caractérise les scènes de taverne, c'est que ce sont des scènes de convivialité. Et on peut imaginer que Shakespeare, quand il écrivait ses pièces, il pouvait être dans ce brouhaha-là, dans des tavernes, à côtoyer ses comédiens. Et donc, il y a cette ambiance, finalement, très théâtrale de la taverne. Les deux lieux ne font plus qu'un au moment où, dans la première partie d'Henri IV, hein, le prince Hal et Falstaff se mettent à jouer le rôle, respectivement, de Falstaff et du père de Hal. Enfin, voilà, font une pièce, vraiment une pièce dans la pièce.
Et de toute façon, c'est la même, là, c'est la même table, la scène.
Oui,
les scènes avec un S ou avec un C sont toutes les deux posées sur des tréteaux.
Le tréteau correspond aussi bien à l'univers de la table, enfin le mot, hein, qu'à l'univers du théâtre, qui a ses codes, ses répétitions, enfin la table, enfin les deux, quoi, ses codes, ses répétitions, où on est en représentation et où il y a la langue. Parce que l'art de la table, c'est l'art aussi de la conversation. C'est ça qui fait toute l'assaisonnement, on va dire, des mets, en fait. Je crois que c'est Lady Macbeth qui dit ça, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais à propos d'un banquet, c'est ce qui fait la sauce des mets, c'est la conversation.
Et ce qui est formidable avec Shakespeare, c'est que ces conversations de table peuvent aussi se tenir sur le champ de bataille. Et je vous propose d'écouter cette rencontre de la langue et de la langue gourmande de Shakespeare d'Henri IV.
He drinks no wine.
There'd be never none of these demure boys come to any proof. For thin drink doth so overcool their blood, and making many fish meals, that they fall into a kind of male green sickness. And then, when they marry, they get wenches. They are generally fools and cowards, which some of us should be too. But for inflammation.
Oui, ça c'est un passage très intéressant, donc tiré de la deuxième partie d'Henri IV, qui est adressé au public en fait. C'est un monologue de Falstaff pour se moquer du prince Jean qui vient de lui faire des remontrances sur le champ de bataille. Et donc il le traite de pisse-froid en fait, disant que lui, hein, il mange maigre, voilà, et que ça se voit dans son caractère qu'il mange maigre. Il est pas joyeux, voilà. Tandis que lui, donc ça c'est dans le passage qui suivra qu'on n'a pas entendu, pour lui un bon grès reste, hein, ça produit un double effet. Il monte jusqu'au cerveau, me dessèche là toutes les vapeurs stupides et lourdes et épaisses qui l'environnent et le rend alerte, vif, inventif, plein d'images fougueuses, enflammées, délectables, qui transmisent ces images à la voix et à la langue, qui leur donnent naissance, deviennent excellents traits d'esprit. Donc, de ce rerès naissent les traits d'esprit, la source de littérature, de l'âme littéraire, des joies, du mot, et ben c'est l'alcool. Voilà. Pour revenir sur les insultes adressées à Falstaff, hein, il est traité de rognon gras, par exemple, hein, fat kidneyed rascal, fat guts, donc on renvoie à ses tripes, hein, grosses tripes. Il est appelé Sir John Paunch, donc Jean le Pansu, ou Jean-Michel Desprats traduit Jean de la Bedaine. Et il s'oppose, ah oui, également pour ce combat de carnaval et de carême, il s'oppose à Hal, qui lui est un descendant de John of Gaunt dans Richard II. Et John of Gaunt, le terme Gaunt, veut dire décharné, tout maigre. Falstaff le renvoie régulièrement à cela. Et en même temps, dans les scènes de taverne, Hal, il essaie de se faire verbalement aussi gros que Falstaff. C'est pour ça qu'ils sont compères. Hein. Il essaie de se faire aussi gros que lui, par le verbe.
Et Falstaff, c'est aussi une injure.
Falstaff, c'est celui qui a son arme qui tombe. Donc ça renvoie au fanfaron qui n'est pas capable d'assurer sur le champ de bataille, hein, ce qui est le cas. Il fait le mort. Hein.
Et pas uniquement sur le champ de bataille.
Il fait le mort. Et peut-être pas uniquement, parce qu'avec le terme staff, toujours on peut avoir une connotation sexuelle dans le texte shakespearien. Et donc oui, il peut ne pas être puissant dans tous les sens du terme.
Mais dans tous ces mots, dans toutes ces injures que vous avez dénichées, il y a aussi beaucoup de mots d'amour, enfin il y a aussi beaucoup de mots appétissants.
Ce qui est très frappant entre la première partie d'Henri IV et la deuxième, c'est qu'il y a un basculement de cette langue en fait. Il y a une évolution hein, de la relation entre Hal et Falstaff. Donc Henri IV, si on parle des deux parties, la première partie, oui, c'est le temps de la jeunesse. Donc Falstaff, il est cet excès, ce personnage bon vivant. Et puis, les premières paroles que Falstaff dit dans la deuxième partie d'Henri IV, c'est « allez me chercher mes analyses d'urine, en gros ». D'accord ? Donc on tombe dans le domaine de la maladie. Et dans le domaine de la vieillesse, davantage.
Et de la déchéance.
Et ça va de pair avec des scènes de combat d'injures qui ne sont plus les mêmes et où on a besoin de s'excuser, en fait. On est obligé de dire... Donc, au cœur de la deuxième partie d'Henri IV, il y a une scène où Falstaff dit « Ah non, je t'ai pas insulté, je t'ai pas... No abuse. Non, je voulais pas t'insulter, je t'ai pas insulté. » Et quand on dit ça, c'est qu'on sent qu'il y a précisément un effet injure et qu'il y a eu un potentiel d'effet négatif dans les mots qui ont été prononcés.
Et dans la façon de... Quand vous dites Falstaff, le fall, il y a aussi la chute.
Le parcours de Falstaff, hein, c'est
une déchéance.
Ça nous mène à la fin d'Henri IV, donc de la deuxième partie d'Henri IV, où le prince devient roi et renie le monde de la taverne. Ça lui a permis d'apprendre les langues, hein, il le dit, hein, il est devenu un caméléon des langues. Il dit « with any tinker in his own language ». En buvant, il a appris aussi la langue de ses concitoyens, de ses sujets, on va dire, ceux qui vont devenir ses sujets, et du moindre rétameur. Donc il est devenu ce polyglotte pouvant s'adapter à toutes les langues. Mais une fois qu'il est roi et qu'il a appris cette langue, eh ben, il peut renier ce monde de la taverne. Ça a fait son éducation. Et donc, renier le monde de la taverne, renier cette vie-là, c'est renier Falstaff. Et dans cette scène, scène qui est absolument poignante, ça donne des frissons quand on la voit. Et lorsqu'il il dit à Falstaff, à la fin de la deuxième partie d'Henri IV, « I know thee not, old man. » Voilà, « Je ne te connais plus. Je ne sais pas qui tu es. » Et il lui dit « Leave gourmandizing. » Laisse tomber la nourriture, oui, la gourmandise. Oui. Arrête de te goinfrer. Voilà, ça va te tuer en fait. Ce qui pouvait paraître comme un élan de vie dans la première partie, petit à petit, ça s'installe comme une source de mort dans la deuxième partie.
Falstaff, on le retrouve aussi dans une autre situation, peut-être plus embarrassante, un peu plus critique, dans une autre pièce.
Dans Les Joyeuses Commères de Windsor.
Et oui,
Les Joyeuses Commères. Il est très drôle. Oui, il est très drôle. Donc, il est dans la position du séducteur. Celui qui essaie, c'est le lady killer, c'est le tombeur de ces dames. Enfin, il s'imagine être tombeur de ces dames. Et donc, il leur parle dans toutes les langues. Et l'un des personnages dit de lui, he loves the gallimaufry. Donc, il aime la gallimaufry, c'est-à-dire le hoche-pot, le ragoût de langue. En fait, Shakespeare, il utilise des termes alimentaires pour parler du linguistique, pour parler de littérature, en fait. Et on voit ça souvent, par exemple, pour revenir à la première partie d'Henri IV, vous avez un autre personnage, Hotspur, qui dit à sa femme, non, jure-moi, à pleine bouche. C'est-à-dire, fais-le pas comme ça, un petit juron comme ça, tout discret. Non, faut du vrai juron. Parce qu'elle a juré en disant, in good sooth. Donc, en vérité, bon, il lui veut un gros God's wounds, enfin, un gros juron bien gras. Voilà. Donc, les mots remplissent la bouche. Et dans Les Joyeuses Commères de Windsor, donc, notre Falstaff, oui, il est là comme séducteur, voilà, qui essaie de parler toutes les langues. Et c'est une pièce très plurilingue, en fait, bizarrement. Alors que c'est la seule pièce anglaise, la seule comédie anglaise de Shakespeare, en fait. Les autres se passent en Italie, vous voyez. Celle-ci, elle se passe en Angleterre. Et il y a tout un tas de... Il y a un banquet de langues, voilà. Cette expression aussi de banquet de langues, on la retrouve dans Peine d'amour perdu, qui est décrite dans la pièce elle-même comme « feast ». Un festin, a feast of languages, un festin de langues. Donc, j'en revenais. C'était pour ce télescopage, là, ce mariage entre les mets et les mots que l'on retrouve d'une pièce à l'autre, et notamment dans Les Joyeuses Commères.
Alors, dans Les Joyeuses Commères, il est un séducteur, mais un drôle de séducteur, puisqu'il est aussi un cerf, ce qui n'est pas l'archétype du séducteur, qui est plutôt celui de l'homme trompé. Avec ses grandes cornes, et il est accroché, au mur quasiment.
Voilà, à la fin, en fait, c'est les femmes qui se vengent. Parce qu'il a essayé de conquérir deux femmes à la fois dans les Joyeuses Commères de Windsor. Et ces deux femmes, elles savent qu'il essaie de conquérir les deux. Donc, elles se vengent. Et elles lui disent d'aller, donc dans une scène très... là encore, c'est très carnavalesque et très festif. Elle lui donne rendez-vous dans la forêt et lui demande de se déguiser en cerf. Voilà, donc de se mettre les cornes du cocu dont il a voulu affubler, en fait, les deux maris de ces dames. Mais en vain. Et c'est lui qui devient emblématique de la figure du cocu, c'est-à-dire du trompé. Et donc, à la fin des Joyeuses Commères de Windsor, il devient celui qui est chassé, en fait. Et donc, vous allez avoir des personnages déguisés en fées, voilà, qui vont aller lui brûler les fesses. Donc, littéralement, le faire griller, celui qui a été appelé gros lard, gros porc. Voilà, à la fin des Joyeuses Commères, il se fait quasiment littéralement griller, retire
le cerf.
Après avoir été mis, alors ça, c'est une scène aussi sur laquelle je m'intéresse. Au milieu de la pièce, à peu près, il se fait jeter dans la Tamise, voilà, par les femmes, dans un paquet de linge sale, voilà. On l'évacue pour qu'il ne se fasse pas découvrir par les maris trompés ou soi-disant trompés. On l'évacue, on le jette dans la Tamise. Et alors, ça, c'est gros traumatisme, parce que les eaux de la Tamise sont très malsaines, donc bon. Et puis, Falstaff, ça ne va pas avec l'eau.
L'eau de vie à la rigueur.
Voilà, l'eau de vie, ça irait. Mais voilà, c'est grand scandale pour lui que d'avoir été associé à de l'eau, première fois de sa vie.
Alors, je vous propose d'écouter le moment où il se retrouve cerf et écoutons son brame.
L'horloge de Windsor a sonné minuit, c'est bientôt l'instant. Que les dieux sans chaud m'assistent. Souviens-toi, Jupiter, que tu te transformas en taureau pour Europe, en cygne pour l'Éda, et que tu n'étais pas bien loin de faire loi. Si les dieux eux-mêmes n'ont pas plus d'emprise sur la chaleur de leurs reins, que pouvons-nous, nous autres hommes? Me voici, quant à moi, transformé en cerf de Windsor, sans doute le plus gras de toute la forêt.
Oh, Jupiter, modère mon rut, sinon je ne réponds plus de moi et je n'ose imaginer en quel monstre je vais me transformer. Oh, oh, oh.
Ben c'est Jacques Fabry hein, qui joue Falstaff et là alors que la pendule ne se rapproche pas de minuit mais de midi et demi, Nathalie Vienne-Guérin, qu'est-ce que cette scène évoque pour vous et j'aimerais que vous nous rappeliez aussi le retour de Falstaff dans Henri V. Le revenant là en l'occurrence.
Oui, le revenant. Alors, cette scène-là, ce qu'il faut remarquer, il se transforme en cerf, il se transforme...
En gibier.
En gibier, voilà. Et avec un jeu de mots, alors tout à fait courant dans le texte de Shakespeare, mais dans d'autres élisabétains, un jeu de mots sur le terme « dire », « dire » avec deux oui. « e », qui veut dire
« le cerf »,
et puis « dire » l'amoureux, quoi, le bien-aimé, voilà. Et donc, vous avez cet effet d'ironie.
D'ironie.
Celui qui est celui qui est censé être « dire », D-E-A-R, qui devient dire donc le cerf. Donc aussi l'alimentaire et bon, tout un tas de niveaux métaphoriques.
Le prédateur est devenu gibier.
Voilà, le chasseur, donc celui qui était chasseur de femmes est devenu chassé. Voilà.
Et le lady killer tué.
Oui. Enfin, tu es métaphoriquement, on va dire. Voilà. On est dans une comédie, donc il peut pas mourir, hein. Mais et alors, dans Henri V, oui, bah dans Henri V, on a le souvenir, en fait, le souvenir de Falstaff, dont on nous dit que les mots du prince l'ont tué. Voilà. Hein. Et donc, he was as cold as any stone. Il devient celui qui était chaud, quoi, hein, chaud lapin. Eh bien, les mots du roi l'ont tué. Et Kenneth Branagh, dans son Henri V, qui était un film superbe, à mon sens, Kenneth Branagh, il représente des scènes falstaffiennes en flashback hein, dans son Henri V. Et donc, on voit, enfin, on devine la mort de Falstaff. Il n'a plus le souffle de vie parce qu'il a été renié par celui qu'il voyait comme son fils et dont il voulait faire l'éducation. Et il dit bien, moi j'apprends, et si j'avais 1000 fils, hein, je leur apprendrais à boire. C'est ça, moi, que je leur transmets. Et c'est ça qu'il a transmis à Hal. Il lui a appris à boire. Mais derrière ce monde de la boisson, et Dieu sait que je n'aime pas le monde de la boisson, moi, mais il y a tout un univers de vie, de bien-vivre, de joyeuseté qui va avec et qui se perd au début d'Henri V.
Pendant que Dominique Merlet joue Falstaff, des variations de Beethoven sur un thème de Salieri, il va falloir nous séparer. Merci beaucoup Nathalie Vienne-Guérin pour cette mise en bouche de Falstaff. Je donne rendez-vous à nos auditeurs à Montpellier donc pour votre journée Shakespeare le 23 avril. Hein,
donc ce sera de 9h à 9h.
De 9h à 9h.
23-24, donc à cheval. Oui.
Voilà, et je recommande aussi le Dictionnaire amoureux de Shakespeare de François Larocque, que nous avons évoqué tout à l'heure, et le Que sais-je, Shakespeare de Jean-Michel Desprats.
Attention, vous. Hein. 3, 4. Plié, tendu, la jambe et hop.
C'était On ne parle pas la bouche pleine, une émission d'Alain Crugère avec la collaboration de Dominique Compétissa, la prise de son est de Jean-Michel Bernaud et la mise en onde d'Anne Pérez. Vous pouvez réécouter cette émission jusqu'à la fin des temps. Un certain temps. Vous pouvez aussi la podcaster sur le site de France Culture et dans quelques instants, le journal.